Panorama Économie.
Bonjour messieurs et dames, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les titres: plus de 3000 agents de la Sokimo réclament 24 mois d'arriéré de salaire. Ils l'ont fait savoir lundi par un sit-in devant le siège de leur entreprise à Bunia. Dossier complet sur cette situation dans votre magazine tout à l'heure. Panorama économique revient également sur les cris de détresse des journaliers de la Société nationale d'électricité. Ils sont plusieurs centaines qui réclament la régularisation de leur situation professionnelle. Leur avocat parle de 7, 8, 9, voire 10 ans de prestations sous le statut de journalier, ce qui n'est pas conforme avec le code du travail congolais. Le secteur du tourisme de la RDC a trop de mal à décoller. Il faut développer les infrastructures de base comme routes et électricité pour rendre facile le développement de ce tourisme. C'est à cet exercice que se sont attelés les participants jeudi à un atelier organisé par la Chambre de commerce de la RDC pour des précisions tout à l'heure dans votre magazine. Bienvenue, Marie Bakoumania est avec nous dans ce studio pour des analyses et commentaires. C'est un habitué de l'émission. Bienvenue encore une fois, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour Daniel, bonjour François.
Et devant le micro, François et Daniel pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Bienvenue à toutes et à tous.
Panorama économique, le dossier.
C'est par la province orientale que nous ouvrons ce numéro de Panorama économique. Province orientale, où les agents de la Sokimo ont fait un sit-in lundi devant le siège de leur entreprise à Bunia. Et selon le délégué syndical de cette entreprise sur place à Bunia, ces travailleurs revendiquent 24 mois d'arriéré de salaire.
Pour manifester leur ras-le-bol, ils ont brûlé des pneus, exposé un cercueil et une croix devant le bureau pour signifier que la Sokimo est morte ou est en faillite. Le délégué syndical parle d'environ 3000 agents et leurs dépendants voués à la misère et certains travailleurs meurent sans être remis dans leurs droits. Ils accusent pour cela le gouvernement qui les aurait abandonnés au profit de Kibali Gold, partenaire de leur employeur Sokimo. Mbomo Saga, syndicaliste Sokimo, est au micro d'Isaac Remoyope.
Ça fait 24 mois que nous ne sommes pas payés. Nous travaillons, lorsque quelqu'un travaille, il faut qu'il soit payé. Ça fait 24 mois. Nous avions notre partenaire Kibali. Sur le tableau, c'est marqué, nous lui avons cédé 800 tonnes d'or. Mais en échange, je vais dire ce qu'on dit à Lingala, appelle ça merci Nambo. Nous avons donné 800 tonnes. Mais en échange, pour donner seulement les royalties, ça fait problème. C'est pas normal. Nous considérons que ce contrat-là, c'est un contrat léonin. Il faudra qu'on puisse le voir. C'est prévu que lorsque une partie trouve qu'elle est lésée, il faut qu'on revoie ça. Nous ne sommes pas contre Kibali. Kibali peut travailler, mais Kibali doit savoir que nous sommes des êtres humains, nous devons vivre. Il ne faudra pas qu'eux vivent et nous soyons dans la misère. Ceux qui sont allés signer les contrats, c'est toujours le gouvernement. Le gouvernement a signé le contrat, ils ont vu ça.
Les mêmes mouvements de réclamation se sont encore poursuivis jeudi. Et cette fois-là, les dirigeants de Sokimo, la grande délégation syndicale, étaient en face du ministre de Mines et celui du portefeuille. La rencontre a servi juste de calmer la tension afin que l'inauguration prévue par Kibali au début du mois de mai se fasse dans la quiétude, puisque les syndicalistes sont sortis, nous ont dit tout simplement que les autorités sont aux côtés de la Sokimo pour résoudre dans l'amiable et dans un plus bref délai, sans donner d'autres précisions à leur situation. Voilà, nous avons bienvenu Marie Bakoumania dans ce studio. Bienvenue, vous avez aussi suivi en tant que journaliste économique cette situation qui se passe à la Sokimo. Votre commentaire.
Mais moi, je remonte au déluge. Je remonte à l'origine de la crise. C'est justement ce que nous avions appelé à l'époque contrat léonin, hein, en ce qui concernait justement cette joint-venture entre Sokimo et Kibali.
Oui.
À l'époque, nous avions relevé le fait que les contrats qui étaient pilotés, rappelez-vous, par Madame Mabunda, omettaient la clause de paiement des royalties, ce qui est une aberration lorsqu'on est en matière de contrats de cette nature.
Mais il peut arriver que, bon, peut-être on peut, c'est l'œuvre humaine, on dit, n'est pas parfaite, peut-être entreprises n'avaient pas fait attention à cela.
Mais déjà à l'époque, on avait tiré la sonnette d'alarme.
Et personne n'avait entendu.
Personne ne nous avait suivi. Vous rappelez-vous l'arrogance de l'époque quand on avait initié
la transformation
des entreprises. Mm-hmm. On n'écoutait personne. Tous les conseils n'étaient pas pris en compte. C'était une arrogance jamais vue. C'est comme si ces entreprises étaient une propriété privée de quelques individus au perché. La réforme a donné des résultats que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un échec cuisant. Personne n'a tiré des conséquences. Tous ceux qui ont piloté la réforme et qui a échoué, qui a englouti des millions de dollars, ils se la coulent douce aujourd'hui. Et les résultats sont là. Aucune entreprise n'a été transformée avec succès. Aucune entreprise publique, je mets mon doigt à couper, n'a donné des résultats escomptés. En deuxième lieu, Daniel, vous verrez également que Kibal versait tout de même 350 000 dollars américains. Une rente, bon, en termes de rente, je ne sais pas ce que ça représentait. Quand c'est une rente, il n'y a pas une obligation. Et à un moment donné, Kibal a estimé que l'heure était venue de couper les vivres. Il a coupé. Donc, aujourd'hui, à Sokimo, ils n'ont qu'à s'en prendre à l'État congolais. Kibali n'a rien à voir avec Kigali. Kibali a un contrat en bonne et due forme. Il respecte les clauses de ce contrat. C'est l'État congolais qui a été fautif parce que le processus de transformation des entreprises a été mené de manière cavalière, a été mené de manière à la limite des gangstérismes.
Mais bienvenue à Kibali. Les agents en fait disent que l'argent que Kibali verse à Sokimo, c'est par rapport à la petite partie qui a été donnée à Kibali pour exploiter.
Bien sûr que c'est par rapport à cette partie qui a été donnée, mais la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kibali ne verse plus? Pour quelles raisons?
Ils sont partis sur de mauvaises bases.
Ben le contrat mal négocié. Les contrats étaient mal ficelés. Dans cette matière, chers amis, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de charité.
Justement, puisque vous parlez de la morale, hier au sorti de la rencontre de la délégation syndicale avec le ministre de Mines et la ministre de Portefeuille, le délégué syndical dit, nous demandons à Kibali d'avoir le sentiment d'être
humain.
Non. Et nous lui avons dit, bon, ils ne sont pas des philanthropes, non, c'est des entreprises qui viennent chercher des bénéfices. Il dit non, l'homme doit chercher le bonheur de l'autre, c'est le Satan qui doit chercher la mort ou la souffrance de l'autre.
Mais qui vous dit qu'à Kibali, on est croyant? Qui vous dit qu'il croit en Dieu ou il croit à la charité? Non, on doit arrêter de rêver dans ce pays. C'est pas parce que les églises de réveil pilulent chez nous, tout le monde se dit croyant que les autres...
On doit amener ça dans les affaires.
Dans les affaires, ça n'existe pas. Dans les affaires, c'est-à-dire tu me donnes, je te donne. Quand on négocie serré. On ne négocie pas avec la complaisance parce qu'on a obtenu une commission et on fait comme si l'État, les autres n'existent pas. Mais s'il faut demander la charité, s'il fallait demander le sentiment humain, c'était un autre dirigeant à l'époque qui avait négocié. Il devait être humain et savoir que les gens de Sokimo, ils auront droit à la vie. C'est à eux qui devaient penser de mettre cette clause de paiement des royalties, imposer cette clause à Kibali. Ils ne l'ont pas fait. Il ne faut pas chercher le diable ailleurs. Le diable est parmi vous. Ce sont les Congolais entre nous. Nous ne nous sommes pas pris au sérieux. On ne s'était pas pris au sérieux. Les autres ont profité de notre faiblesse. À ce moment-là, quels sont les moyens qui ont été utilisés pour que les nôtres qui ont négocié ferment les yeux par rapport à une clause importante comme celle-là? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que les autres ont été imperméables à toutes les remarques que nous leur avons formulées à l'époque? Personne ne le sait et personne n'est prêt à le savoir.
Mais le gouvernement congolais, découvrant cette erreur, avait estimé qu'il fallait impliquer les royalties. Pourquoi ne pas à l'instant respecter ce que le gouvernement congolais avait estimé que c'était oublié au départ?
Ben écoutez, j'espère que le ministre Kabouloulou et madame la ministre Munga, ce sont des gens qui sont sensibles et des nationalistes et des patriotes. Nous espérons qu'ils vont faire en sorte que Kibali puisse commencer à respecter, puisque bientôt là ils vont commencer à produire de l'or à grande échelle.
L'inauguration de la mine est prévue au début mois de mai.
Voilà, une production à grande échelle. Il faudrait également que nos frères de Sokimo vivent. Moi, je me pose la question. La transformation des entreprises a échoué. Les observations ont été formulées à l'époque. Pourquoi est-ce que ceux qui ont géré ce pays sans tenir compte des observations objectivement formulées, pourquoi est-ce qu'ils se la coulent douce? quelle raison ils doivent circuler librement? Et les familles, il y a des morts à Kibali, il y a des gens qui ne mangent pas à Kibali, et eux, c'est la coule douce. Avec l'argent qu'ils ont amassé, certainement...
Et ce n'est pas seulement à Kibali, c'est dans plusieurs autres entreprises qui ont subi cette transformation raciste.
À moins que je l'anticipe. Si on prend la Sonas aujourd'hui, ça gronde là-bas. Peut-être qu'on va en parler. Hein, à la Sonas aujourd'hui, les gens alignent des mois et des mois d'impayement de salaire. Et pendant ce temps, il y a des dons qui sont faits à des partis politiques. Il y a des dons qui sont faits à des individus qui n'ont rien à voir avec l'objet social de la Sonas. Personne ne parle. Donc demain, nous allons encore enregistrer d'autres gones de grande envergure à la Sonas. Personne ne parlerait.
Alors, d'une revendication à une autre, d'une société à une autre, d'une province à une autre, nous quittons la province orientale pour Kinshasa, où environ 300 agents journaliers de la Société nationale d'électricité réclament la régularisation de leur situation professionnelle.
L'avocat conseil de ces agents s'est confié mardi à Radio Okapi. Maître Ebene Bongelo a affirmé que certains de ses agents travaillent comme journaliers depuis près de 10 ans. Des démarches de régularisation sont entreprises à différents niveaux, mais les résultats attendus tardent à venir. Maître Ebene Bongelo est au micro de Paul Matendo.
Nous avons écrit au Premier ministre le 28 mai. Le Premier ministre, effectivement, il a accusé réception de notre correspondance par sa lettre où il nous demandait de saisir le ministre du Travail directement. Et nous avions saisi le ministre du Travail juste un jour après avoir reçu la lettre du Premier ministre. Le ministre du Travail a diligenté même une enquête des inspecteurs du travail qui étaient chargés de procéder à l'identification des journaliers.
Quels sont les résultats de cette enquête?
Ils ont fait le travail d'identification, mais malheureusement, l'identification du rapport que nous avions reçu de nos clients, ça ne s'est pas passé comme prévu. Nos clients nous ont fait savoir que quand ils sont arrivés, à l'instar des auditeurs également, pour les inspecteurs du travail, ils sont entrés dans les bureaux des responsables, dans les direction, ils sont ressortis avec des listes, alors que les journaliers les attendaient dehors pour leur identification parce qu'ils ont été informés de l'identification.
L'identification des journaliers de la Société nationale de l'électricité n'a pas été faite comme elle se devait. Les équipes d'inspecteurs sont entrées à la société, ils sont ressortis avec des listes déjà préétablies, mais ils n'ont pas physiquement vu les personnes qu'ils devaient identifier. Voilà comment ça se passe dans nos entreprises. Bienvenue. L'homme est placé à l'arrière-plan et ce sont plutôt les intérêts personnels, les avantages personnels indus qui sont mis en premier plan.
Oui, c'est le cafouillage dans la gestion des entreprises publiques, des biens sans maître, malheureusement. Malgré la transformation, on a déshabillé...
Malgré les 100% des actions détenues par l'État.
Détenues par l'État, ça n'a pas changé du tout. Comment voulez-vous, 10 années, quelqu'un qui évolue dans une entreprise avec comme statut journalier? C'est du jamais vu. La loi en la matière est foulée aux pieds. On n'a même pas besoin d'engager un avocat. La loi le stipule clairement. Lorsqu'une personne travaille de manière discontinue pendant plus de 6 mois, il occupe un poste, automatiquement, il détient par devers lui un contrat à durée indéterminée. On n'a pas besoin d'avocat. On applique la loi. Le ministère du Travail, il fait quoi? Le grand professeur Bahati Lukwebo, hein, qui a revivifié ce secteur. Mais c'est un dossier qui devait se saisir. Il devait s'en saisir.
Nous avons vu des correspondances entre la primature et le ministère du Travail, justement, avec la signature du ministre Bahati. Mais en tout cas, jusque-là, rien. Entendre parler cet avocat dans cette interview-là, rien ne présage un avenir heureux pour ces journalistes.
Oui, justement, on les voit régulièrement à la direction générale de la SNEL en train de manifester. Hein, ils sont en train de manifester parce qu'ils ont un statut précaire. Et la précarité, c'est la majorité des Congolais, mais ceux-là qui ont la chance.
Et c'est plus ces gens qui travaillent sur les réseaux de distribution de la SNEL.
Ben oui, ce sont eux qui interviennent lorsqu'il y a des pannes. Ce sont eux qui distribuent les factures. Ce sont eux qui font tout le travail. Et pourtant, la SNEL, puisqu'on parle de la SNEL, et il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la SNEL, même si aujourd'hui on peut estimer que le comité de gestion pose des actions qui va dans le sens de l'amélioration de la situation, mais il y a les secteurs, la commercialisation de l'électricité par la SNEL. C'est une catastrophe. La SNEL est incapable de commercialiser comme il se doit le produit qu'il est en train de mettre à la disposition des gens. La SNEL est dans l'incapacité d'opérer un bon recouvrement. C'est inimaginable. Hein, et pourtant, c'est une machine à sous. La SNEL, c'est une poule aux œufs d'or. Malheureusement, on ne fait pas attention. On attend que la Banque mondiale vienne intervenir ou le FMI, je ne sais pas. Alors que nous avons des intelligences. À la SNEL, il y a des grandes intelligences qui peuvent organiser un service commercial. Malheureusement, ce qui existe est embryonnaire. Ce qui existe est bancal. Parce que ça ne peut pas rapporter à la SNEL conformément à l'adéquation avec la production.
Mais tout ça, c'est le résultat d'une mauvaise gestion au départ. Les comités actuels n'ont subi que les conséquences d'une mauvaise gestion au départ.
François, je ne dis pas que le comité actuel serait le meilleur comité qui gère. Il est sur la bonne voie, hein, mais il y a des choses à redire par rapport aussi au comité actuel, au comité Eric Mbala. Mais il faut des choses qui sont qui vont dans la bonne voie. Mais il faut dire que c'est cumul de ratés à la SNEL. Ça ne date pas d'hier. C'est depuis la Deuxième République. Ça a continué pendant la transition.
Et il n'y aura personne pour redresser.
On est dans la complaisance la plus absolue. Et pourquoi est-ce que les gens sont complaisants? C'est ça la grande question. Est-ce que tout le monde tire profit de cette situation? C'est ça aussi la grande question. Je pense que c'est l'impunité qui fait en sorte que ça s'érige en mode de gestion.
Et il faut dire que nous avions posé la question à la direction, à la SNEL, qui avait promis de donner sa version de fait. Mais en tout cas, jusque-là, depuis mardi, mercredi, que nous leur avons posé la question, en tout cas, nous n'avons eu aucune réaction de la part de la SNEL.
Ce qui n'est pas correct.
Voilà, le temps pour nous de prendre ce troisième dossier de la semaine, c'est donc avec le secteur du tourisme congolais qui a trop de mal à se développer. Il est confronté à quelques contraintes qui ne lui permettent pas de se développer.
Voilà, c'est le constat fait jeudi à Kinshasa par les experts congolais et opérateurs économiques du secteur. C'était lors de l'atelier organisé par la Chambre de commerce nationale de la RDC. Selon Eric Castel, secrétaire général de cette chambre de commerce, l'État congolais devra développer des infrastructures de base, notamment les routes et l'électricité pour relancer le tourisme. Eric Castel est au micro de Paul Matendo.
Nous avons démontré que le tourisme est le premier secteur économique dans le monde entier. Donc vous avez d'abord le tourisme, suivi de l'industrie pétrolière, puis de l'industrie automobile. Le tourisme donne de l'emploi à plus de 780 millions de gens dans le monde. Si cela est prouvé sur le plan mondial, pourquoi ne pas dupliquer cela directement au Congo et avoir les résultats? Premièrement, l'État doit s'investir à mettre en place les infrastructures de base, les routes, les aéroports, amener l'eau potable à tous les endroits à travers la République, amener l'électricité. Ce sont là les grands éléments dont on a besoin, auprès desquels les opérateurs économiques privés du secteur peuvent venir se greffer. Il y a aussi les problèmes des tracasseries pour les opérateurs qui sont en train de travailler sur place au Congo. Les opérateurs dans les secteurs de l'hôtellerie, dans les restaurations, beaucoup se plaignent des taxes qui sont à leur niveau exagéré.
Le secteur du tourisme de la RDC est confronté à plusieurs difficultés, alors que avec un peu de volonté, on peut engranger beaucoup de recettes dans ce secteur-là. Bienvenue.
Oui, une étude a démontré que le tourisme congolais pouvait occuper, si pas la première, tout au moins la troisième place sur le plan mondial si le tourisme était organisé. Bon, il y a eu des démarches qui sont menées par l'actuel ministre de tourisme. On est revenu à l'Organisation mondiale du tourisme, l'ONT, qui aide sur le plan du renforcement des capacités à ce qu'on puisse améliorer la gestion du secteur. Peut-être qu'on est revenu il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a moins de 2 mois ou 3 mois qu'on a renoué avec l'Organisation mondiale du tourisme, ça peut-être revenir sur le rail. Mais tout ce qui touche au tourisme, on voit ailleurs, par exemple, je prends l'exemple du Kenya et de la Tanzanie, où j'ai eu le bonheur de m'y rendre, on octroie des visas même à l'aéroport, des visas qui ne coûtent quasiment rien. À peine $50.
Facilement,
vous avez le visa et à l'aéroport, vous n'avez pas autant de tracasseries comme on retrouve à l'aéroport d'Injili. Ça roule, mais pourtant, le Kenya, par exemple, c'est un pays qui vit dans une insécurité avec l'incursion des Shebab. Mais on ne met pas des gens dans des situations de stress telles que vous avez envie de rebourser chemin aussitôt vous descendez de l'avion.
Pour quelqu'un veut prendre une image quelque part ici, c'est un problème.
Interdit,
alors que...
Mais au Kenya, même à l'aéroport, tu peux prendre des photos à la descente de l'avion. personne ne va t'interdire. Tu peux prendre des photos devant l'aéroport, personne ne va t'interdire. Donc, tant qu'on n'aura pas amélioré ces petites choses-là, hein, n'allons pas toujours exiger des grands hôtels, 5 étoiles, 10 étoiles.
De grandes constructions.
Des petites choses-là, ouais. Un accueil à l'aéroport à la hauteur quand même d'un grand pays comme le nôtre, un pays hospitalier, un accueil où on a ne plus que le sourire au niveau des agents qui vous reçoivent. Si on peut organiser ces choses-là, on peut déjà engranger quelque chose de bénéfique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ici. On a l'okapi, on a les animaux, on a la flore, on a tout. On a même de l'eau qu'on peut visiter. Même ici à Kinshasa, on peut même organiser des visites dans des cours d'eau ici. Il y a des amis qui sont venus de l'extérieur, on les a ramenés voir les rapides ici à Kinsuka, juste à côté de Tchatchi. Oui, juste à côté là.
Oui.
Mais ils disent... Ici, on le voit naturellement et gratuitement. Mais
ailleurs,
chez nous, en Allemagne,
ils
vont payer et c'est artificiel. Mais vous avez une richesse inouïe. On peut rentabiliser ces sites-là. Personne n'y pense.
Qui penserait à cela?
Personne n'y pense. On peut rentabiliser ces sites et à l'entrée, on peut payer $1. Et vous vous rendrez compte, à la fin d'une année, vous avez comme ça 1 million. Mine de rien.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine en plus bref, la liquidation des filiales Orgaman, Transmac et Mapenza inquiète la Fédération des entreprises du Congo. Pour le président de la section Petites et Moyennes Entreprises et Commerce au sein de la Fédération des entreprises du Congo, cette situation aura une implication négative sur les petites et moyennes entreprises qui, pour la plupart, bénéficient des produits de ces filiales. Dieudonné Kassembo a souligné que le gouvernement doit prendre des mesures pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent pour d'autres grandes entreprises sur surtout dans le secteur de l'importation et du transport. Nous en parlions lundi, François.
Voilà, nous allons nous rendre en province orientale où plusieurs dizaines de véhicules remplis de vivres et non-vivres venant de l'Ituri et du Nord Kivu sont bloqués depuis une semaine de l'autre côté du pont Onane, axe Kisangani-Nyanya. Cette situation est consécutive à la détérioration du pont Onane. L'office des routes a interdit les passages sur ce pont en mauvais état pour éviter un éventuel effondrement. Les conséquences économiques de cette situation se font déjà sentir sur le marché. Un gobelet de haricots vendu il y a peu à 500 francs congolais revient aujourd'hui à 750 francs congolais et un kilo de pommes de terre de 800 francs congolais se vend actuellement à 1200 francs congolais.
Et bouclons cette série par les opérateurs économiques qui sont appelés à respecter la réglementation de change en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo qui a lancé cet appel déplore le fait que les opérateurs tentent souvent de traverser la frontière avec plus de 10 000 dollars américains, contrairement à la loi. Plus de 12 cas ont été enregistrés depuis le début de cette année. Samedi dernier, les services à la douanes ont confisqué plus de 60 000 dollars américains auprès d'un opérateur économique qui voulait traverser la frontière. La FEC salue cette action de sensibilisation par la Banque centrale du Congo, mais demande aux autorités d'être un peu flexibles de l'avis de Moudé Kereza, président de la Fédération des entreprises du Congo, section Sud Kivu. Et voilà, bienvenue. Quelques infos de la semaine, notamment cette sensibilisation de la Banque centrale du Congo et aussi la liquidation de 3 filiales de Orgaman. C'est lourd. Hein?
C'est très lourd. Je vais m'apesantir un tout petit peu sur la liquidation des filiales d'Orgaman. Et les raisons qui ont été avancées démontrent que le climat des affaires continue à poser problème chez nous. Il faut déjà maintenir ceux qui sont là. Ici, déjà, ceux qui sont là plient bagages. C'est un mauvais signal que nous donnons à ceux qui veulent venir, à ceux qui voudront venir lorsqu'ils trouvent que ceux qui ont pris des risques plient déjà bagages. Alors, ceux-ci ne viendront pas. Oui. Donc, c'est vraiment, nous faisons nous-mêmes une contre-publicité contre notre climat des affaires ici à l'intérieur du pays.
Et même la Farmakina à Bukavu, justement, qui est aussi, qui fait face à une forte fiscalité, une fiscalité lourde qu'elle ne sait plus supporter, et elle menace aussi de mettre la clé sur les paillassons.
Malheureusement, vous vous rendez compte que si on doit fermer pour la fiscalité, c'est grave. Moi, j'ai toujours pris l'exemple de mon employeur, les potentiels. Quand je vois les taxes qui viennent, je me dis, on n'est pas réaliste du tout.
Panorama économique, matière première.
Restons sur Kivu, donc pour parler de la formation des formateurs sur la transformation de produits du manioc et du soja, organisée par l'Institut international de l'agriculture tropicale à Kalambo. Cette formation était lancée mardi et va durer 10 jours. Elle concerne les représentants des organisations locales de développement venues de 8 territoires du Sud Kivu. Docteur Marie Octavie Yomeni, responsable du projet support à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique, parle des objectifs de cette formation au micro de Michel Chirimwami.
L'objectif de cette formation, c'est utiliser les opportunités que le Congo a. En ce sens-là, que c'est un pays qui produit beaucoup de manioc, qui produit beaucoup de soja, et il faudrait qu'on utilise ce soja et ce manioc pour transformer, pour avoir beaucoup d'autres produits. Que en prenant le manioc du champ cru, nous pouvons le transformer très rapidement, soit avec la main, soit avec la machine, mais d'une qualité différente que nous avons l'habitude de le faire ici au Sud Kivu, et de le mettre dans un état qui peut rester une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, que celui-là peut vendre ça progressivement, ou il peut transformer ça, il met dans un sachet là où il va mettre une étiquette, il met dans sa boutique. C'est le temps pour nous de savoir qu'avec le soja, nous pouvons transformer des produits que nous pouvons mettre dans des boutiques. C'est le temps pour nous de nous lever.
Voilà, la transformation des produits locaux, je sais que bienvenue, vous avez toujours déploré le fait que la RDC importe de l'eau, que la RDC importe des jus de fruits alors que des fruits pourrissent. C'est quand même une belle initiative à prendre aux Congolais de transformer le soja, de fabriquer le lait à base de soja, c'est quand même une bonne chose.
C'est ce genre de projet, j'ai toujours soutenu. Il faut aider nos étudiants, les chercheurs. Nos étudiants, quand ils produisent leur travail de fin de cycle, il faut les orienter vers des cas concrets comme ceux-là, lorsqu'ils font leurs recherches. Et à la sortie des universités, il y a moyen de fédérer un groupe d'étudiants qui sont dans la même filière, les aider avec le financement pour qu'ils puissent se créer des entreprises et devenir eux-mêmes des opérateurs économiques, des agents économiques. Mais malheureusement, notre État ne voit pas les choses de cette manière-là. L'État congolais n'encourage pas l'investissement des Congolais, n'encourage pas les Congolais à investir. L'État congolais est plutôt prompt à prélever des taxes et à prélever beaucoup de taxes sur ceux qui essayent de faire quoi que ce soit.
Voilà, c'est par là que nous allons terminer Panorama économique, mais bienvenue en une minute, peut-être en 30 secondes. Nous avons parlé de la situation entre Kibali Gold et la Sokimo. Nous avons également parlé de 10 ans des journaliers à la SNEL. Un petit mot avant de clôturer cette émission.
Oui, je sais que le Premier ministre Matata s'implique dans tout ce qui touche à la gestion de la chose publique. J'espère qu'il va prendre en main, il va prendre en charge ces dossiers de Sokimo, parce que ce sont des Congolais qui y travaillent. Il ne faudrait pas que l'État perde comme ça des royalties qui lui sont dues. Ailleurs, on impose cela et que chez nous, ça ne soit pas le cas. Une révision urgente de ces protocoles d'accord et de ces contrats doit être une priorité pour le gouvernement. Par rapport aux agents, aux journaliers de la SNEL, moi je suis convaincu que ce ne sont plus des journaliers, ce sont des agents en bonne et due forme. La loi le leur permet, il est question simplement d'appliquer la loi.
Et nous suivons aussi de près la semaine qui commence, la situation qui prévaut à la SONAS.
Ah ben, évidemment, il faut suivre cette situation parce que, à mon sens, ça risque de dégénérer. Il n'est pas normal qu'une entreprise fasse des dons à des partis politiques, à des individus, alors que cette entreprise n'arrive pas à payer ses propres agents. Il faut payer d'abord les personnels. personnel, hein, c'est dans les charges d'exploitation. Comment est-ce qu'on peut faire des dons, c'est-à-dire qu'on réalise des bénéfices, et que les charges d'exploitation, on les ignore? C'est pas normal, ce sont des charges incompressibles, ce sont des charges pour lesquelles toute entreprise sérieuse ne peut pas se dérober. Les charges du personnel, ce sont des charges contraignantes.
Et c'est la fin de Panorama économique sur Radio Okapi. Retrouvez votre magazine toute la semaine sur www.radiookapi.net. Merci François. Et merci. Merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Rendez-vous lundi 18h15, heure de Kinshasa, pour Écho d'économie. D'ici là, très bonne fin de semaine à toutes et à tous.